tous les soirs, Bel RTL vous offre toute la musique que vous aimez.
Bonus track.
Bonus track. Éric Jean-Jean.
Jusqu'à 22h sur RTL.
Bonsoir, c'est Bonus Track du lundi au jeudi, 21h, 22h. Encore une fois, merci pour les sondages, tout ça. Je rappelle aussi que 24h sur 24, vous pouvez nous écouter en podcast, hein, sur RTL, sur l'appli RTL ou sur nos plateformes partenaires. Au menu aujourd'hui, Clément Terna, c'est notre jeune confrère du site The Void qui vient nous parler de technologie au service des concerts. Alors évidemment, il y a l'exemple de U2 avec la sphère, mais il y en a beaucoup d'autres dont on parlera avec lui tout à l'heure. Perrine et Pascal sont là pour nous parler de la actualité musicale. Un focus sur, comme nous l'avons annoncé hier, Deep Purple qui sera sur la scène du festival Montreux Jazz Festival et surtout... Ça pourrait être la fin de tout. Alors pourquoi n'allons-nous pas à un endroit qui n'appartient qu'à nous? En fait, c'est le premier album du groupe anglais Keane, Hopes and Fears, qui sort en 2004, il y a 20 ans. Une chanson qui va les faire connaître en se classant un petit peu partout dans les tops. Et de quoi elle parle? Elle parle de ces endroits secrets où, quand on est amoureux, on aime se réfugier. Ce genre d'endroit connu de nous seuls. Vous savez, là où on va graver les initiales de son amoureux. P-N-P. N'est-ce pas, Perrine? Alors c'est Tim Rice Oxley qui est le pianiste du groupe et chanteur qui l'écrit en s'inspirant de sa petite ville de Battle dans le Sussex. D'ailleurs le groupe vient de là. La voici, cette chanson, Somewhere Only We Know, sur RTL.
I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
I'm getting
Somewhere Only We Know sur RTL. Allez, très vite, Deep Purple arrive, centre focus du jour. Et puis tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, Clément Terna, la techno au service de nos concerts. La techno, entendez bien, la technologie.
Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore, encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Les pansements, et je me dirais à moi-même, tu vois, fais-toi confiance, que tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Et je vole encore, encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir.
Bonus track, Éric Jean-Jean sur RTL.
Deep Purple sera pour la 10e fois à l'affiche du festival de Montreux cette année, la même où est né leur plus grand succès, Smoke on the Water. Du coup, ça nous a donné envie de raconter l'histoire de ce groupe anglais mythique, pionnier du hard rock, qui a vendu pas moins de 130 millions de disques dans leur carrière. Une carrière qui débute en 1967 avec une chanson qui s'appelle Hush. D'ailleurs, c'est pas eux qui l'ont écrite cette chanson, c'est une reprise d'une chanson enregistrée quelques mois plus tôt par le chanteur américain Billy Joe Royal et que Deep Purple avait l'habitude de reprendre sur scène. Oui, parce que Deep Purple, au départ, c'est vraiment un groupe de scène. C'est même pour ça qu'ils ont été créés. L'idée de départ du groupe est née dans la tête d'un batteur, Chris Curtis. En 67, il contacte un homme d'affaires londonien, Tony Edwards, pour lui présenter son idée. Former un super groupe avec un noyau de musiciens chevronnés, rejoint par des invités qui monteraient sur scène le temps de quelques morceaux, avant de redescendre pour laisser la place à d'autres. Comme un carrousel, en quelque sorte. D'ailleurs, en anglais, carrousel, ça se dit roundabout, et c'est le nom qu'ils choisissent pour ce premier groupe. Alors, à la guitare, on recrute Richie Blackmore, au clavier John Lord, et à la basse, Nick Simper. Sauf que le projet n'aboutit pas et finit par être abandonné au bout de quelques mois. Mais Richie Blackmore et John Lord restent en contact. Et bientôt va naître une nouvelle formation sous leur houlette. Ils recrutent alors Rod Evans, un chanteur et un batteur qui s'appelle Ian Paice. Et après quelques mois, le groupe change de nom pour s'appeler Deep Purple, du nom de la chanson préférée de la grand-mère de Richie Blackmore. Et voilà qu'arrive leur premier album. Pas mal de reprises, dont celle-ci, Hush, qui d'ailleurs sera quatrième vente aux États-Unis, alors qu'elle va passer complètement inaperçue en Angleterre. Un album enregistré en seulement 18 heures. Bon, je dois dire qu'il y a pas mal de reprises, mais quand même. Et puis, il faut savoir que c'est un groupe de scène, hein, Deep Purple, à la base. Et puis, Deep Purple poursuit avec un deuxième, puis un troisième album, mais ça marche toujours pas en Europe. Le troisième fait même un flop aux États-Unis. Et là, ça commence à devenir sérieux. Et c'est donc à ce moment-là que Richie Blackmore, le guitariste, va prendre une claque monumentale avec la sortie du premier album de Led Zeppelin. Parce que ce son-là, c'est exactement ce qu'il voudrait pour son groupe. Alors, il décide de remanier le groupe. Rod Evans et Nick Simper, chanteurs et bassistes, sont virés. Remplacés par Ian Gillan au chant et Roger Glover à la basse. Deep Purple marque 2 du nom de cette deuxième heure de Deep Purple vient de naître. Et en 1970, ils sortent In Rock. Parallèlement à 45 tours qui ne figure pas sur l'album et que vous êtes en train d'écouter sur RTL. Black Knight. Avec cette formation, on l'entend, le son est plus rock, plus lourd. Et en fait, avec Led Zepp et Black Sabbath, ils sont en train de poser les bases de ce qu'on va appeler un peu plus tard le heavy metal. Black Knight est un succès en Angleterre et aux États-Unis. Tout comme l'album In Rock, avec sa célèbre pochette qui détourne le monument américain, le Mount Rushmore, pour tailler dans la roche les visages de nos 5 musiciens à la place des présidents américains. Et extrait de cet album, il y a ceci. See the blind man shooting at the world. Un monument de plus de 10 minutes intitulé Child in Time. Une diatribe contre la guerre du Vietnam qui fait rage en 1970. Dans la foulée, le groupe s'attelle à l'enregistrement de leur album suivant, Fireball. Le premier single sort quelques mois avant, en février 71, il s'appelle Strange Kind of Woman. L'album est un succès, certes, mais pas autant que le précédent. Il faut dire que le groupe, qui est quasiment tout le temps en tournée, enregistre ses albums un peu entre deux concerts. Et du coup, ils sont pas très satisfaits de leur travail en studio. Il manque un truc par rapport à leur performance live. Alors, pour l'album suivant, ils vont avoir une idée. Aller à Montreux, enregistrer au casino, ça se passe en Suisse évidemment, dans les conditions les plus proches possibles du live. À l'époque, ils avaient sympathisé avec le patron du festival de Montreux, Claude Nobs, et c'est lui qui leur avait suggéré l'idée. Le casino était fermé pour l'hiver parce qu'il y avait de la rénovation à l'intérieur et donc il pouvait servir de lieu d'enregistrement. Deep Purple décide de louer le studio mobile des Stones et débarque à Montreux le 3 décembre 1971 pour enregistrer leur sixième album, Machine Head. Et extrait de cet album, il y a Highway Star. Le leur arrivée à Montreux, donc le 4 décembre 1971. Frank Zappa donne un concert dans le fameux casino, qui est en bois, avec son groupe The Mother of Invention. Mais subitement, l'un des spectateurs tire un coup de pistolet de détresse dans le plafond, en bois, vous l'avez compris, qui évidemment s'embrase comme une torche. Zappa, resté d'un calme olympien sur scène, commence à faire évacuer la salle qui s'enflamme. Et dans le public, il y a Ian Gillan, le chanteur de Deep Purple. Il sort du bâtiment sain et sauf et rejoint le groupe à l'hôtel. Alors que le casino se consume, Deep Purple va rester une partie de la nuit sur leur balcon. Ça se passe à l'Eden Palace, à regarder la fumée tomber sur le lac Léman. Et évidemment, ça va donner naissance à un tube mondial, Smoke on the Water, enregistré dans un théâtre vide de la ville avant de se faire virer par la police. Quatre notes. Celle de Richie Blackmore, le guitariste. Un tube planétaire. Et une chanson qui est quasiment un reportage. Ils vont raconter tout ce que je viens de vous dire dans la chanson. Et ça commence comme ça. On est tous sortis à Montreux, sur la rive du lac de Genève, pour enregistrer un disque avec un studio d'enregistrement mobile. Nous n'avions pas beaucoup de temps. Frank Zappa et les Mothers étaient au meilleur endroit possible. Mais un idiot avec une fusée éclairante a brûlé l'endroit jusqu'au sol. Et le refrain ? De la fumée sur l'eau. Du feu dans le ciel. De la fumée sur l'eau. Et ce riff de guitare de dingue. Bon, évidemment, l'album Machine Head va être un succès incroyable. Et du coup, le groupe retourne en tournée aux États-Unis puis au Japon, ce qui va donner un double album live qui, là encore, sera un énorme succès. Et puis la sortie d'un nouvel album, toujours avec cette même formation, Who Do You Think We Are, en 1973, avec ce single. Woman from Tokyo. Là encore, gros succès, Deep Purple devient même l'artiste le plus vendu en 73 aux États-Unis. Mais c'est aussi le début des emmerdes et le début d'une grande tournante, on va dire. Mais il faut expliquer que ce rythme infernal va finir par faire apparaître des tensions entre les membres du groupe, notamment entre Richie Blackmore et le chanteur Ian Gillan, au point que les deux musiciens ne s'adressent quasiment plus la parole. Alors Ian Gillan finit par annoncer son départ. Sauf que, en parallèle du départ de Gillan, Blackmore veut aussi celui de Roger Glover. Il dit « c'est lui ou c'est moi ». Roger Glover, le bassiste, est viré. C'est lui qui par ailleurs fera, alors qu'il vient de se faire virer, la chanson « Love Isolée » avec la grenouille. Donc Blackmore a obtenu gain de cause et le groupe se retrouve à nouveau réduit à trois musiciens. Donc ils vont recruter un nouveau bassiste, Glenn Hughes, pour remplacer Roger Glover, et un chanteur quasi inconnu, David Coverdale, pour remplacer Gillan. C'est le début de l'ère Mark III de Deep Purple, avec un premier album qui sort en février 1974 et qui s'appelle Burn. Vous l'entendez, le son a changé, plus rock-prog. Et ce son va continuer à évoluer avec l'album suivant qui, lui, étrangement, va être plus funk. Il s'appelle Stormbringer et il sort en novembre 1974. Mais Blackmore ne se sent plus vraiment à sa place dans le groupe. Il a perdu sa place de leader. Il commence à avoir envie de se lancer dans des projets solo. Alors il donne un dernier concert Deep Purple à Paris. Ça se passe au Palais des Sports le 7 avril 1975. Et le 21 juin, il se sépare officiellement de son groupe. Il est remplacé par un Américain, Tommy Bolin, premier non-britannique à intégrer le groupe. C'est le début de l'ère Mark IV de Deep Purple. Sauf qu'évidemment, les fans ne se retrouvent pas du tout dans cette nouvelle formation et seulement un an plus tard, en 76, Deep Purple se sépare. Can you remember? Remember? le groupe va rester très populaire et finalement Deep Purple va renaître de ses cendres en 1984 avec la formation Mark II pour enregistrer l'album Perfect Strangers dont vous écoutez un extrait. Gros succès en Europe et aux États-Unis. Et puis en 1988, cette fois-ci, c'est Ian Gillan qui est viré du groupe, notamment à cause de ses problèmes d'alcool et ses disputes à répétition avec Ritchie Blackmore. Il est remplacé par Joe Lynn Turner. Cette cinquième formation de Deep Purple, Mark V, donnera naissance à un seul album, Slaves and Masters, sorti en 1990. Extrait de cet album, le titre King of Dreams. En 2002, c'est John Lord qui va annoncer son départ. La formation va continuer à fluctuer comme ça jusqu'à aujourd'hui encore. On doit être quelque part à Mark 9, si ma mémoire est bonne. Alors, dans les dernières chansons, il y a par exemple ce Time for Bedlam tiré du 20e album du groupe Infinite, sorti en 2017 et produit quand même par Bob Ezrin. Bob Ezrin à la production en 2020, c'est le 21e album de Deep Purple. Il s'appelle Whoosh et tiré de cet album Through My Bones. Purple, que vous pouvez retrouver sur la scène à Montreux cet été avec cet album Machine Head qui vient d'être réédité dans un coffret de luxe à l'occasion des 50 ans de sa sortie, un album remixé, remasterisé, vinyle, CD, etc. etc. Bon, bah, y a plein de trucs avec un petit livre et des documents rares. Du coup, pour terminer ce focus, on s'est dit que ce gros riff de guitare, même si on l'a entendu des milliards de fois, il est quand même sacrément bon. Voici en entier cette fois-ci Smoke on the Water et sans parler dessus. Vas-y. We'll be right back. Purple et Smoke on the Water, qui fête ses 50 ans, vous l'avez compris, avec l'album Machine Head, et qui seront sur la scène, justement, du Festival de Montreux, où cette chanson a été créée. Allez, à suivre Perrine et Pascal, et puis Clément Ternin nous rejoint tout à l'heure, on va parler de la technologie au service des concerts, et bah oui, c'est assez impressionnant en ce moment.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Jusqu'à 22h.
Avec Éric Jean-Jean sur RTL.
Bonsoir Perrine.
Bonsoir.
Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Perrine Suquet, productrice de cette émission et journaliste musicale qui va faire le journal dans quelques petites secondes. Et Pascal, le patron de la programmation musicale de RTL qui nous présentera sa nouveauté quotidienne. Perrine, on connaît le lauréat du Rock'n'Roll Hall of Fame.
Les lauréats, parce que parmi la liste des nommés, ce sont finalement 16 artistes qui seront intronisés cette année au fameux Rock'n'Roll Hall of Fame, le panthéon de la musique rock, et parmi lesquels Cher, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, Foreigner, Peter Frampton ou encore Kool & The Gang, qui sont donc tous récompensés en tant qu'interprètes. Mais il y aura aussi Jimmy Buffett ou la chanteuse Dionne Warwick, récompensée dans la catégorie excellence musicale. Parce qu'il y a plusieurs catégories, hein. Il y a aussi plus des règles pour faire partie du club très fermé du Rock'n'Roll Hall of Fame. Par exemple, on peut être éligible que 25 ans après son premier enregistrement. On doit avoir eu, évidemment, une influence notable sur l'histoire du rock et de la musique américaine. Et parmi les nommés cette année, il y avait avait d'autres artistes qui n'ont finalement pas été retenus, comme Mariah Carey par exemple.
Oh.
C'était dur. Lenny Kravitz, ça, ou encore triste. Oasis.
Mais ça, c'est bien fait pour eux, ça.
Oui, parce que Liam Gallagher avait accueilli la nomination d'Oasis par un scud en direction du Panthéon du Rock. Que le Rock'n'Roll Hall of Fame aille se faire foutre, je n'ai pas besoin d'un trophée de branleur décerné par un vieux qui porte un chapeau de cow-boy. Ça tombe bien, ce ne sera pas pour cette fois.
Ouais, non, ils ont été éjectés carrément. Bon, le Printemps de Bourges démarre aujourd'hui. C'est le point de départ des festivals de l'été. Hein,
c'est celui qui ouvre la saison des festivals, oui, et il se tient jusqu'à dimanche avec une très belle programmation. Une centaine d'artistes, parmi lesquels Santa, Zao de Sagazan, Olivia Ruiz, Oshi, Chaka Ponk, Mika, mais aussi des créations dont Message Personnel, un spectacle hommage à Françoise Hardy avec entre autres Clara Luceni, Thomas Dutronc et Zao de Sagazan, ou encore Come As You Are, hommage à Kurt Cobain avec Yves D et Béatrice Dalle.
Ah oui, alors j'ai vu une interview de Béatrice Dalle qui dit que elle est l'épouse de carrément oui, de Kurt Cobain. C'était dingue. Hein. Bon, il y a quoi d'autre d'ailleurs ?
Il y aura plein d'autres temps forts comme Dominique A qui lira ses poèmes tirés de son premier recueil de poésie Le Présent Impossible, ou encore Cat Power qui chantera Dylan dans la majestueuse cathédrale de Bourges. Je vous conseille d'aller sur le site du festival pour découvrir la programmation très riche et puis la billetterie qui est toujours ouverte.
Et oui, parce que Cat Power qui a sorti un album de Dylan, de cover de Dylan, où elle reprend exactement le fameux concert où Dylan passe à l'électrique. Ouais. Bon, merci Perrine. Pascal, qu'est-ce qu'on écoute comme nouveauté aujourd'hui ?
Je vais vous parler ce soir d'un artiste irlandais dont on a bien cru pendant longtemps qu'il allait rester l'homme d'un seul tube, celui-ci. Voilà, Ozier a sorti un album l'été dernier. Il était une gigantesque tournée derrière pour promouvoir cet album. Et l'album, voilà, ne fait pas un carton.
Il est passé au Zénith.
Dans les charts, il est passé au Zénith au mois de décembre, fin novembre ou début décembre l'année dernière. Et voilà, pour relancer un petit peu la sauce, eh bien, il décide de publier un petit EP 4 titres début avril, voilà, qui s'appelle Unhear. Et il publie sur TikTok l'un des titres inédits. Et voilà, là, ça part, ça s'en flamme, on en est à plus de 100 millions d'écoutes et le titre est numéro 1 en Angleterre depuis vendredi et il explose en France. Voilà, il s'appelle Too Sweet. Grape, you can sit in a barrel, baby.
C'est bien ce truc.
Oui, c'est vachement bien. Donc après avoir signé un des plus gros tubes des années 2010, Take Me to Church, dont on va écouter un petit bout tout à l'heure, bien voilà, son tube des années 2020. Bon, il y en aura au moins, hein. Ce sera tout de suite.
Merci, c'était Pascal Amiot. Merci Perrine. À demain évidemment pour l'actualité musicale dans Bonus Track. Et voici Clément Ternin qui nous rejoint maintenant du site The Void.
You'll find me in the echo of the dark, working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow.
Éric Jean-Jean.
Jusqu'à 22h sur RTL.
Et le sang frais de cette émission, je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est Clément Ternin, la technologie au service des concerts. On va parler de tout ça. Bonsoir Clément.
Bonsoir.
Qu'on retrouve sur sa chaîne hein, The Void, V-O-I-D. Tu nous parles, alors évidemment, chaque jour sur ta chaîne, alors sur YouTube, sur Instagram, je recommande à tout le monde de te suivre. Et aujourd'hui, on va parler de technologie dans les concerts.
Tout à fait.
Alors qu'est-ce qu'on va se dire?
Eh ben justement, on va parler de la technologie au service des concerts. Et pour commencer, je voudrais remonter à la grande période du Covid. Alors, plus de contacts, plus de sorties et donc plus de concerts.
Ouais, ça on s'en rappelle tous.
Et donc, on était tous enfermés dans notre appartement ou dans notre maison, pour les plus chanceux. Mmh. Et on avait a priori plus de solutions pour écouter nos artistes préférés en live. Et ça, la radio américaine NPR était une des premières à le comprendre.
Ah, ils étaient déjà habitués, non, à réaliser des live sessions.
Tout à fait. C'est ceux qui font justement les tiny desks dans leur, dans leur bureau. C'est super.
C'est
exceptionnel.
C'est des concerts, en fait, qui ont lieu, hein. On en avait parlé d'ailleurs avec Perrine parce qu'on réfléchissait à quoi faire pour leur piquer l'idée. Ils font, dans leur bureau carrément, ils font des petits concerts, mais il y a eu des gros artistes qui sont venus dans ces concerts. Bon, bref.
Complètement. Ouais. Et là, pour le coup, depuis le Covid, ils font ce qu'on appelle les tiny home desk, et en fait ils ont demandé aux artistes d'enregistrer chez eux leur live.
Okay.
Et donc il y a eu plusieurs cas comme celui de Justin Bieber qu'on a pu voir en direct de son salon.
Il a ce son dans son salon.
En fait, il a ce son dans son salon parce qu'il y a tous ces musiciens qui sont avec lui.
Ah, génial.
Et on pourra voir à l'image, c'est exceptionnel.
Ah, c'est génial.
Il y a le clavier, le batteur, tout le monde est là. Et en fait, c'était un live qui a été enregistré, qui était diffusé en direct sur les réseaux sociaux, un live d'une vingtaine de minutes. Et ça... ça rappelle aux gens justement que eux aussi, les stars aussi, étaient enfermés dans leur salon.
Alors il y a un autre truc aussi dont je voudrais que tu nous parles, parce ouais. qu'on en a parlé avec Perrine d'ailleurs dans cette Perrine Suquet dans cette même émission, c'est les concerts qui ont lieu au milieu de jeux vidéo, c'est-à-dire les superstars qui se retrouvent dans un jeu vidéo.
Exactement, tout à fait. Alors depuis toujours, on sait que les artistes adorent apparaître dans les jeux vidéo, ou non, on sait pas. On vit dans un monde où Michael Jackson est jouable dans un jeu de boxe, ou Nicki Minaj dans Call of Duty, ça existe. Pour les concerts, c'est principalement dans Fortnite que ça se passe. Le concept est simple. Concert d'Ariana Grande, The Weeknd, Eminem, Lady Gaga, les plus grands y passent. Le jour de l'événement, vous accédez à la zone de jeu dédiée et vous profitez du concert à travers votre personnage virtuel.
Ça, c'est Ariana Grande, hein.
Ouais.
Et ça coûte cher, ce truc-là?
Alors, dans le principe, c'est gratuit. Mais si vous voulez que votre personnage puisse danser la vraie choré du concert d'Ariana Grande, ça vous coûtera quelques euros.
Ouais.
Donc, vous pouvez aussi acheter la robe d'Ariana Grande. C'est valable pour tous les artistes. On peut acheter la même casquette qu'Eminem ou la même veste qu'Eminem. Et il y a un réel business lucratif autour de ça. Et ça fonctionne parce que les jeunes sont dans l'hyper-connexion. Et en fait, pour le coup, les chiffres sont hyper parlants. Honnêtement, aujourd'hui, on est minimum sur 20 millions de joueurs connectés à chaque événement. Et les chiffres sont impressionnants. Et je parle même pas des rediffusions sur les réseaux.
Ça veut dire qu'en fait, on peut... je vais pas faire mon vieux con, hein, du tout, mais je savais exactement ce qui se passait. Mais tu peux acheter en virtuel, en fait, la casquette d'Eminem. Mais,
c'est ça.
Mais pas, tu l'auras jamais en vrai.
Tu l'auras jamais en vrai. Elle est uniquement virtuelle. Et en fait, ton avatar possède la casquette. Et si vraiment t'as des sous, parce que ça va coûter 10, 15, 20 euros selon le personnage, ouais. On peut acheter carrément le skin d'Eminem et incarner Eminem dans le jeu.
Oui, ça c'est la classe.
Et ça c'est la classe, mais c'est très cher.
Bon, il faut qu'on aborde aussi un sujet important.
Oui.
Les téléphones en concert, ça commence à faire jaser. Hein.
Pas de téléphone interdit. En tout cas, c'est l'idée de la société Yonder. Alors, on a pu les voir plusieurs fois à l'Olympia dans ces dernières années. Ils donnent à chaque spectateur une sorte d'étui de téléphone.
Ouais.
À l'intérieur, on met son téléphone et il est verrouillé automatiquement pendant toute la durée du concert. Alors, pas de panique, si on a vraiment une alerte importante, on a des zones de déverrouillage. Mm-hmm. Mais dans le principe, on ne peut pas utiliser son téléphone à l'intérieur de la salle. Donc pour double objectif, le premier c'est empêcher les spectateurs de filmer ou de photographier le concert pour le faire fuiter. Mmh. Mais la deuxième, c'est surtout pour que les gens focalisent leur attention sur la scène, sur ce qui se passe sur scène, sur les musiciens, et en fait revenir à l'ancienne époque finalement.
Ouais. Et il y avait Placebo qui avait fait ça, et puis de mémoire, moi j'ai eu un truc avec au Grand Rex, c'était Bono, il nous avait demandé de mettre, tu sais, quand il avait fait son... Et puis avec Bob Dylan aussi. Bon alors, ça fait déjà des années quand même que certains artistes commencent à demander au public de ranger son téléphone quand même.
Alors,
je me souviens d'un Bruel un peu énervé sur sa tournée Barbara, par exemple.
Oui, complètement. Dans la majorité des cas, oui. Sauf finalement pour les artistes urbains, il y a un gros développement de la scénographie des artistes urbains pour en fait faire des concerts qui sont destinés à être publiés sur les réseaux sociaux. Je pense à Caris par exemple,
ouais.
Caris qui vient justement de faire un concert il y a quelques semaines sur Paris, et en fait le show, au lieu d'être un show qui est tout en largeur comme on voit dans les festivals et dans les arénas, là c'est un show qui est tout en hauteur, parce qu'aujourd'hui les gens filment en story Snapchat, en story ou en Snapchat, et finalement on est dans une nouvelle consommation du concert.
Oui,
parce que tout le monde filme.
Je pensais à Ariana Grande qu'on avait vu au Vieille Charrue, c'était un peu ça, c'est
ouais.
L'impression que c'était un concert qui était fait pour Instagram. Bon, il faut qu'on parle absolument de la plus grande avancée technologique pour un concert, et je pense qu'on va être d'accord pour dire que c'est
YouTube, sans aucun doute. Alors en fait, le groupe U2 a inauguré pour 17 000 privilégiés la sphère de Las Vegas. Donc c'est une salle immense, une sorte de grosse boule immense au milieu de Las Vegas éclairée. Et voilà, donc la définition est exponentielle, on est en définition 16K, on a 150 000 haut-parleurs, l'écran mesure 50 000 mètres carrés. Et ça donne le live le plus immersif au monde.
Ouais, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter la petite sœur d'RTL, RTL2, où j'aurai le plaisir d'abord de vous diffuser une interview, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, de YouTube. Ce sera entre 18h et 19h. Et puis à 19h, on vous diffuse l'intégralité de ce concert. Alors, il n'y a que le son. Et d'ailleurs, dans l'interview, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que le journaliste demande, c'est un anglais, c'est un copains à eux. Ils demandent c'est quoi la grande différence, et Bono explique que c'est le son. C'est-à-dire qu'en fait, le son est tellement bon dans la sphère qu'il est obligé de bien chanter, et c'est vraiment impressionnant, quoi.
C'est très exigeant pour le coup. C'est vrai que sur des Dolby Atmos, on peut arriver jusqu'à 50 000 enceintes. C'était déjà un record, mais là, on dépasse encore les... Donc il y a vraiment pas le droit à l'erreur en termes de justesse. On est obligé d'être impeccable. Et les images de l'extérieur de cette salle sont déjà bluffantes parce que le bâtiment est recouvert d'un écran géant. Mais à l'intérieur, devant un groupe légendaire sur une scénographie qui est unique, dédiée justement à ce live-là, ça fait rêver, quoi.
Ça coûte cher, non ?
La technologie, ça a un prix. Faut compter en moyenne $390 par personne. Mais c'est parce qu'en fait, le coût d'un projet comme celui-ci, c'est 2,3 milliards de dollars. Et encore, j'imagine même pas la facture d'électricité à l'année. Et on pourrait avoir de la chance, parce que ça pourrait nous coûter moins cher de voir un concert comme ça, parce que il y aurait une discussion sur la construction d'une deuxième sphère à Londres. Donc ça évite de traverser la planète pour pouvoir voir un concert en sphère.
Mais le problème, c'est justement l'écologie. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu pas mal de messages quand j'ai dit que je diffusais ce concert sur RTL2, me disant mais Bono, type engagé, c'est pas très écolo, tout ça. Donc je suppose qu'ils ont dû faire attention quand ils ont fait la sphère quand même. Il faudrait se renseigner là-dessus. Tout ça pour les artistes actuels, mais pour les autres, c'est-à-dire ceux qui sont plus là ou les plus âgés, la technologie leur rend hommage aussi, Clément.
Exactement. Donc il y a une solution très simple. Alors elle sort de Star Wars ou Star Trek, hein, là complètement. Ça fait 10 ans que ça existe, c'est la modélisation d'un artiste à l'apogée de sa carrière en hologramme. Et la première surprise a été réalisée par l'équipe d'Avatar en 2012, représentée Tupac à Coachella.
Ah, les fameuses surprises de Coachella. C'est en ce moment d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, rien ne se passait. Ça marche comment d'ailleurs en hologramme sur scène ?
Et ben, en fait, il y a plusieurs techniques. Tupac, c'est grâce à un système de projecteurs qui est projeté en fait depuis les crash barrières, depuis le dessous de la scène. C'est des projecteurs diffusés vers des vitres invisibles, juste à côté de l'artiste, parce que là, pour le coup, c'est un live où il chante avec Snoop Dogg. Donc il y a Snoop Dogg et Tupac qui se regardent et qui font un vrai live avec des passe-passe. Et c'est impressionnant. Et donc le personnage est modélisé par les équipes d'Avatar. C'est réellement eux en fait qui ont travaillé sur l'étude du projet. Tout a été fait en studio et donc avec des chutes de studio, des versions alternatives en fait du morceau. Et ça donne un résultat vraiment super convaincant. Et plus récemment, c'est Drake qui a choqué son public, parce qu'en fait il y a un moment de son live où il est avec une personne dans un canapé, c'est lui jeune. Et ça, c'est impressionnant parce qu'il y a pour le coup, ils dansent tous les deux, ils chantent tous les deux, ils parlent tous les deux, c'est impressionnant. Alors cette fois, c'est encore une autre technologie. Alors là, par contre, faut s'accrocher parce que c'est un projecteur qui est diffusé, qui diffuse l'image du visage de Drake jeune sur un acteur.
Oh !
Et en fait, le Drake est à côté de lui et les images sont bluffantes. Il y a des images qui circulent sur internet où on voit Drake qui se regarde jeune, et en fait c'est comme on pourrait faire avec des maquillages. Des fois on voit par exemple une femme qui va faire un maquillage Michael Jackson sur son visage. Là c'est pareil mais avec des projecteurs laser, et en fait c'est impressionnant.
C'est super impressionnant, waouh. Et d'ailleurs je note aussi Jean-Louis Aubert, hein, qui avait fait la tournée All Autour avec des hologrammes. Je crois que c'est le premier français à faire ça et un des premiers du monde. Il avait fait un concert virtuel justement pendant le confinement, à la fin du confinement. C'était absolument sublime. Et si on parlait alors du show dont tout le monde a parlé
dont tout le monde a parlé en Europe, c'est celui-ci. Alors, en fait, c'est ABBA. ABBA a été représenté donc par les équipes de George Lucas, les équipes de Star Wars, ont en fait modélisé tous les membres de ABBA, les ont rajeunis et les ont placés dans des tenues rétro-futuristes à la Tron. Et donc le show a été testé à Londres presque toute l'année dernière, et a priori on devrait bientôt avoir le droit à une tournée partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on réécoute ABBA sur RTL.
Merci beaucoup, Clément. Steven Bellery est allé le voir pour nous. Il avait trouvé ça incroyable, d'ailleurs.
Ça doit.
Ça nous a donné l'occasion d'écouter Abba sur RTL, et c'est pas dégueu. C'était Gimme Gimme Gimme, et on était avec Clément Ternat, hein, la technologie au service des concerts. Après, il va y avoir, je pense, Clément, enfin c'est une réflexion comme ça que je te lance en l'air, mais il va y avoir deux salles, deux ambiances, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment faire de la scène avec des musiciens, etc., puis ceux qui vont faire des hologrammes, ce sera autre chose, ce sera des spectacles, quoi. Mais c'est intéressant aussi, hein.
C'est super intéressant aussi. En fait, des fois, ce qu'on aime, c'est justement le côté spectacle, son, lumière, ambiance, ou justement l'authenticité. Je pense que ça dépend de l'artiste, ça dépend du
public. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la semaine dernière, il y avait Élie de Préto qui était sur scène et les gens lui ont reproché justement que ses musiciens sont enregistrés. C'est-à-dire que les musiciens, on a l'impression vraiment qu'ils sont en live, mais en fait, ils sont enregistrés comme s'ils étaient derrière, tu vois, filmés. Mm-hmm. Et en fait, c'est vachement bien. Donc voilà, c'est aussi une forme de créativité. Et faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle ou de la technologie parce que ça permet d'être plus créatif. Tout comme ce jeune homme brillant qui est en face de moi, il s'appelle Clément Ternat, c'est la chaîne The Void. C'est TikTok, toi ton truc c'est TikTok. Un jour tu viendras m'expliquer comment ça marche TikTok en fait.
Bah, complètement, avec plaisir. Donc TikTok principalement, effectivement. Après il y a Instagram, YouTube c'est les shorts.
Ouais. Et les shorts c'est les trucs courts.
C'est les vidéos courtes. Et Facebook, il y a quand même beaucoup d'auditeurs sur Facebook. Hein.
Ah bah oui, surtout les nôtres. Donc non mais c'est vrai, moi c'est ma plus grosse communauté est sur Facebook et je vous en remercie. Merci infiniment Clément. The Void, T-H-E-V-O-I-D. À bientôt mon ami.
À bientôt.
Et c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, 21h-22h. Bonne soirée. Round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet.